Ok, on va. Je sais qu'on s'est pas vu depuis un petit moment, donc on a envie de se parler, mais on va reprendre et on pourra se reparler à la fin de la célébration. On est bon ? On est bon. Merci. Il y a au moins une personne, c'est bien. Ok. Donc nous allons maintenant passer au moment de prédication. Et donc, comme vous le savez, on a fait une pause pendant l'été au niveau des prédications et on revient dans l'évangile de Marc. Donc, l'évangile de Marc, comme vous savez, peut-être ou pas, c'est une des quatre biographies de Jésus. Et ce qu'on fait, c'est que chaque dimanche, on parcourt juste quelques morceaux de cette biographie de Jésus, de cet évangile. Et donc, on le fait de façon suivie. Donc là, on avait quitté à Marc 11, donc on reprend Marc 11, et on est au verset 12, et je vais lire jusqu'au verset 26. Donc, Marc 11, verset 12, jusqu'au verset 26. Je lis. « Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa des tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il enseignait en disant « N'est-il pas écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus votre faute. Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Merci, Tim. Bonsoir à tous. Comme cet été, on a fait une pause dans notre série sur l'Évangile, comme Tim a partagé. Et ce soir, on va reprendre sur l'Évangile de Marc. Cet été, on a appris que par le Dieu trinitaire, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nous pouvons faire confiance que Jésus a été crucifié, il a ressuscité et on a un salut pour nous si nous croyons en lui. Et aussi, on croit dans le Saint-Esprit qui peut nous transformer dans nos vies. Et donc, c'est par l'alignement de nos vies que nous pouvons voir, nous pouvons vivre avec une intégrité évangélique. Si vous n'avez pas encore écouté cette prédication, c'est sur notre site web et aussi sur votre plateforme pour le podcast. Mais ce soir, comme tu m'as dit, on va reprendre cette série sur l'Évangile de Marc. Et cette semaine, alors qu'on entame la grande rentrée, et tous les parents se sont dit « Ouais !» On a-tu la grande rentrée de Jésus la grande rentrée de Jésus à Jérusalem. L'un des plus grands récits dans le livre de Marc. C'est intéressant parce qu'un tiers de l'évangile de Marc a désigné sur ces dernières semaines de la vie de Jésus. Parce que c'était assez important pour Marc. Il a pensé que c'était la meilleure façon de communiquer qui est Jésus, qui est ce Messie en Jésus-Christ. Et aussi, ça explique un peu l'accomplissement de l'Ancien Testament. Regardez à Zacharie, chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça, c'est des années avant le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, verset 8, chapitre 11, on voit notre roi Jésus qui vient d'arriver depuis Bethany à Jérusalem, Marc chapitre 11, verset 8. Beaucoup de gens entendirent le vêtement sur le chemin et d'autres des branches qui coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, Hosanna, bien soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le très haut. » On a parlé la semaine dernière, mais regardez à nouveau l'humilité qu'on voit avec Jésus lorsqu'il entre à Jérusalem sur un âne. Comparez ça là à la façon de la Romaine qui est entrée dans une ville en Italie ou même à Jérusalem en tant que concurrente et en tant que détenteur de pouvoir. Comparez cela à la façon de Mohammed est entré à Mecque sur un cheval de guerre avec une caverne de 400 hommes et 10 000 soldats. Ceux qui l'ont accueilli ont été absorbés par le mouvement, tués ou réduits en esclavage. Comparez cela à la façon que notre roi Jésus est entré à Jérusalem, en sachant qu'il agit de sa dernière semaine sur cette terre, qu'il a intention de s'offrir comme notre dernier et ultime sacrifice. C'est notre Sauveur, Jésus-Christ. Les foules croyaient-elles dans le cœur que c'était vraiment le Messie, ou peut-être ils ont pensé que c'était un magicien, un bon enseignant, quelqu'un, je ne sais pas. Ce que beaucoup d'entre nous savent, c'est que ces cris de joie de foule, « Hosanna! Hosanna! » Des jours après, quelques jours après, même pas une semaine, changés dans des insultes, dans des malédictions. Pour les disciples et les croyants, ces larmes de joie sont devenues quelque chose d'autre. Les larmes de joie sont transformées en chagrin, en consternation, en perplexité, puis à nouveau en joie. C'est ainsi que se reflète un peu notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Souvent, on a des joies, plein de joie, et aussi plein de tristesse. Beaucoup de bonheur et de chagrin. Et dans le texte ce soir, on verra le jugement et la conséquence d'une vie sans fruits et la nécessité de s'enraciner en Christ. Donc, il n'y a que deux points. Examinez vos fruits, versets 12 à 14. Examinez vos fruits. Après Jésus a visité la ville et le temple, il est retourné à Bethany. Le soir même, il a passé la nuit avec ses disciples. Notre texte reprend le lendemain matin, donc il est en train de rentrer à Jérusalem, mais il y a un problème. Il a faim. Jésus aperçoit de loin un figuier avec des feuilles. Donc, bien que le figue ne soit pas, c'est pas la saison pour des fruits mûrs, mais il a vu des feuilles. Donc, il est arrivé et il a vu trop loin, mais Jésus s'approche, il découvre que même si de loin, la feuille promettait des fruits, il n'y avait en fait aucune. Jésus maudit le figuier et le condamne pour ne pas avoir produit des fruits. L'une de ses raisons d'être un figuier et de tout autre arbre fruitier, c'est pour quelle raison? D'avoir des fruits, n'est-ce pas? Ce que fait d'un arbre fruitier, c'est le fait qu'il peut produire des fruits. Pourtant, cet arbre fruitier symbolise le contraire de l'intégrité. Une vie qui est alignée sur la valeur, sur l'objectif, mais plus comme des hypocrisies. Il semble être un figuier, mais en réalité, il n'y a pas de figue. Il était inutile. Il était tiède. Il était ni chaud, ni froid. Et le figuier est une image, à cette époque-là, importante pour Israël. C'était dans l'histoire aussi qui symbolise la désobéissance d'Israël à vivre sa foi avec l'intégrité. La désobéissance d'Israël à vivre sa foi avec l'intégrité. Ils n'avaient pas aligné leur vie sur leur Dieu d'amour. Et le jugement s'abattait sur Israël. L'hypocrisie va toujours dans cette auto-illusion. On pense être une chose alors qu'on est une autre. Charles Spurgeon a dit que la grande majorité des personnes qui ont une religion, quelle que soit, portent des fruits, mais ils ne produisent pas de fruits. Examinez vos fruits. Versets 15 à 16. Examinez vos fruits. Le culture du temple était devenu une affaire importante. Pendant la semaine de Pâques, souvent, cette ville a multiplié 10 fois. Pouvez-vous imaginer si c'est comme fête de lumière, peut-être? La population de Jérusalem a multiplié 10 fois. L'historien juif Joseph nous apprend qu'une année de Pâques, 66 ans après Jésus-Christ, 255 000 agneaux ont été achetés, vendus et sacrifiés dans le cour du temple pendant cette année, ou cette semaine-là. C'est beaucoup de barbecue, n'est-ce pas? Sans but de manger, mais c'est beaucoup d'agneaux. De la même manière que Jésus a jugé le figuier parce qu'il ne produisait pas de fruits, Jésus juge le prêtre du temple et le dirigeant de Sanhédrin. C'est le grand prêtre. Parce qu'il ne produisait pas de fruits. Ils étaient hypocrites, comme cette figuier. Ces hommes vendaient et prêchaient une religion fausse. Ils prêchaient des faux fruits qui ne réconciliaient pas les hommes et les femmes à Jésus, ou à Dieu. À cette époque-là, les pèlerins religieux et les adorateurs aussi apportent des animaux et des choses pour le sacrifice, comme les agneaux. Mais souvent, ils ont acheté quelque chose et le Sanhédrin a créé ces pré-certifiés pigeons, comme une pré-certifiée voiture. Donc, ils ont créé cet animal où les gens peuvent acheter pour certifier que ça peut passer par l'inspection de le prêtre. Parce que vous avez besoin d'un pigeon ou un agneau propre. Donc, ils ont créé cet pigeon certifié et ils ont vendu souvent 16 fois plus que normal. Le pigeon pré-certifié constitue le sacrifice le moins cher. Donc, c'est-à-dire que c'était plutôt pour les pauvres. Ça veut dire que les chefs religieux profitaient des pauvres. Aussi, souvent, les pèlerins étrangers, ils sont arrivés à Jérusalem, ils avaient de l'argent, mais il y a un problème, ils avaient de l'argent pour leur pays, pas pour Jérusalem. Donc, ils doivent faire un échange. Et quand ils ont fait l'échange, souvent, ils ont payé un frais pour cette transaction. Le prêtre était sage, malin, pas sage, malin. Non seulement le prêtre volait les gens, mais il refusait aux païens, tous ces étrangers qui sont venus, ben, ils restent dans le parvé extérieur. Ils n'étaient pas bienvenus dans l'intérieur de le temple. Donc le temple et le dirigeant donnaient une apparence de spiritualité comme cet arbre. Ils ont donné une apparence de dévotion à Dieu. Mais ils s'avéraient être des hypocrites. Dieu avait fait d'Israël un phare. Ça, c'était le but pour Israël, d'être un phare pour toutes les nations. Mais c'était plus qu'une lueur que Jésus allait bientôt éteindre. Examinez vos fruits. Versets 17 à 19. Jésus cite l'Ancien Testament. C'est maintenant qu'il condamne les temples pour avoir, pas une maison de prière, mais pour toutes les nations, une caverne de voleurs. Vous voyez ici que notre Sauveur était bon et aussi en colère. Notre Sauveur est légitimement en colère car il y a des injustices. Il y avait des injustices contre le mal. Et le mal. Et il ne reste pas assis et ne fait pas comme s'il n'y a rien. Il a combattu ce mal qui était là. De nombreux Juifs pensaient que le Messie viendrait et il va purifier le temple. Donc il n'y a pas de païens dans l'avenir. Mais en fait, et aussi peut-être pour purger un peu le temple. Comme ça, c'est que les Juifs. Mais pour le faire, mais Jésus, il est venu pas pour purger, mais pour leur faire de la place. C'est la bonne nouvelle pour nous tous. John Piper commente ici que le nouveau peuple qu'il appelle à l'existence n'est pas défini par la race, l'ethnie ou le lien politique, mais par le fait de produire le fruit du royaume. Cela signifie une nouvelle famille mondiale composée de croyants en Christ, issus de tous les groupes ethniques de la planète et enracinés en Jésus. C'est la bonne nouvelle pour nous tous. Le deuxième point ce soir, c'est vérifier vos racines, versets 20 à 21. Lorsque j'étais au lycée, souvent j'ai 20 chantiers et j'ai tondu de pelouse comme un jardinier. Donc j'ai 20 chantiers pour mettre un peu de l'argent dans la poche. Et certaines années, il m'arrivait que j'ai plié ou cassé la lame de ma tondeuse sur des vieilles racines. C'était facile pour le propriétaire pour abattre cet arbre, mais il fallait souvent des machines lourdes pour vraiment creuser les racines, ou beaucoup de produits chimiques pour tuer la racine d'un arbre qui était là depuis des années. Mais par le jugement de Jésus, il n'a pas taillé les branches de l'arbre, il n'a pas nettoyé l'arbre, il n'a pas purifié l'arbre de sa maladie. Jésus a tué l'arbre aux racines. C'était le plus difficile, mais pas pour Jésus. Vous pouvez voir où les racines du chef du temple ont été placées en regard de leur réponse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont réagi en complotant pour le tuer à cause de sa popularité. Il ne veut pas qu'il puisse continuer dans sa popularité comme enseignante. Il veut trouver une façon d'arrêter cette enseignante. Leur arrogance, leur orgueil, leur incrédulité les ont conduits à la destruction. Le temple aurait dû être un lieu de prière, de pardon, mais c'était un lieu de corruption, de pouvoir et d'égoïsme. Et Jésus encourage les disciples à cultiver la racine d'une foi trouvée dans l'Évangile. Hudson Taylor a dit, « Dieu utilise des hommes qui sont assez faibles pour s'appuyer sur lui. La vraie religion vous renvoie à la suffisance de Christ. » Ça, c'est pourquoi on a prêché sur un Dieu trinitaire. Parce que la vraie religion vous renvoie à la suffisance de Christ sur la croix. Et pas juste à nos œuvres. La fausse religion élimine ou minimise le besoin de Christ. Ils ajoutent des règles ou rajoutent quelque chose d'autre en plus pour avoir une relation avec Dieu. Vérifiez vos racines. Versets 22 à 26. Versets 22 à 23. Votre foi en Christ peut changer vos circonstances et même vos réponses à ces circonstances. La montagne, c'est une hyperbole. C'est pas juste, c'est une illustration pour les choses qui sont impossibles. C'est des choses qui sont difficiles à bouger dans nos vies. On a tous des montagnes. Dieu fait l'impossible dans nos vies et dans nos situations. Andrew Murray a dit que nous avons un Dieu qui se réjouit des impossibilités. Verset 24, on ne prie pas pour que Dieu modifie sa volonté afin qu'elle corresponde à nos plans, mais pour aligner nos cœurs sur ses desseins dans nos vies. On ne fait pas de vœux un génie dans une bouteille, mais on prie à notre Dieu, donne-nous la confiance, donne-nous le courage, donne-nous la résilience de faire le bon combat nécessaire pour ma vie. Cela signifie qu'on peut souvent recevoir des réponses de notre prière. Ça, c'est l'assurance que Jésus partage dans ce texte. On prie et souvent on a des réponses. Souvent on trouve qu'on a des choses qu'on ne cherche pas. Souvent il y a des portes qui sont ouvertes. Et souvent il y a des choses qu'on n'a jamais imaginées. On a l'assurance, on a l'espoir que dans la vie, il y aura des moments qu'on sera surpris par la bonté de Dieu. Versets 25 à 26. Dieu cherche à pardonner à tous ceux qui reçoivent son pardon. Le pardon donné par le Père se reflète dans nos relations. Dieu est un Dieu relationnel et nous sommes des personnes relationnelles. Puisqu'on a été beaucoup pardonnés, nous pouvons pardonner les autres. On est donc appelé à être des ambassadeurs, des ministères de réconciliation. À l'époque de Jésus, les Israélites étaient en train de construire ce temple. Ce n'était pas encore terminé. Ils ont construit ce temple jusqu'à 64 après Jésus-Christ. Ils ont terminé le temple. Moins de 6 ans après, les Romains sont arrivés et c'était détruit. Ils ont passé toutes ces années pour préparer ce temple et même pas 6 ans après, c'était détruit. C'est une bonne image, c'est une bonne illustration aussi biblique que le bâtiment, c'est jamais notre solution éternelle pour notre Église. Cependant, Dieu a commencé à construire un nouveau temple. Ce n'est pas un temple à Jérusalem, mais c'est un temple dans nos cœurs. Jésus a tué l'arbre de faux culte qu'ils ont vu ce jour-là. Il a commencé quelque chose dans chacun de nous. N'importe quelle race, n'importe quelle ethnie, n'importe quel pays, il commence un temple de chacun. Aujourd'hui, des millions de temples à travers le monde se trouvent en vous et en moi en tant qu'une seule église. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut se joindre à lui pour construire son temple ici, sur terre, en tant qu'église mondiale. C'est des choses qu'on voudrait faire ici à Lyon, dans le 5e, dans les autres endroits, en France et dans ce monde. Car on a tous été achetés par un prix élevé, pas un pigeon, pas un agneau, mais le meilleur agneau, le sang précieux de notre Jésus-Christ, notre agneau de la Pâque, sans défaut ni tâche. Pour nous, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, on peut expérimenter sa présence dans notre vie chaque jour, dans le quotidien, demain à la rentrée, si on accepte et reçoit cet agneau, cet sacrifice que Jésus a fait pour nous. Peut-être vous êtes là ce soir et vous dites, « Pasteur, je suis un chrétien, mais j'ai du mal à voir beaucoup de fruits dans ma vie. Est-ce que cela signifie que je suis enraciné dans les mauvaises choses? » Bon, cette question pour moi, c'est, s'agit-il d'une saison? On passe tous par des périodes difficiles. On passe tous par des choses dans nos vies qui nous élaguent, afin de porter plus de fruits à l'avenir. Si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez. Et si vous l'avez fait, vous le ferez à nouveau. C'est une promesse. C'est le chemin avec Jésus-Christ. C'est la voie et le chemin. Dans ce texte, il y a un jugement, mais il y a aussi une assurance. Jésus nous invite à entrer dans une relation avec lui, Lorsqu'on est enraciné en lui, on ne peut pas porter des fruits. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Cependant, il se peut que l'on doive réorienter notre vie en fonction de ce qu'on donne à la terre, ce qu'on donne dans le sol, pour que la racine puisse être forte et pousser en profondeur. On prie que la foi en Christ commence et se termine avec lui. On prie qu'il nous remplisse par sa grâce, il nous vide des montagnes. Comme Tim a partagé, les montagnes avec la rentrée scolaire, on a tous des montagnes devant nous. Peut-être c'est des regrets des péchés passés. Peut-être c'est des regrets d'aujourd'hui. Mais on fait le bon combat ensemble. Et lorsque sa grâce déborde nos réservoirs, il peut repousser les impuretés et aussi pousser les fruits. Donc, concentrez-vous moins sur vos péchés et davantage sur sa grâce et sa bonté et l'assurance de Christ au cours de ces prochains mois. Que Christ peut produire des fruits en vous. Jacques chapitre 3, verset 17 à 18 dit, « La sagesse en haut est tout d'abord pure. » Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui travaillent à la paix. On prie que notre vie de prière grandisse en nous et on peut pardonner les personnes qui ont peut-être péché contre nous. Parce qu'on a été pardonné beaucoup, n'est-ce pas? Et si on a reçu tous ces pardons, on peut pardonner les autres. Plus, en plus, et en plus. Pour réconcilier les autres à sa royaume. Peut-être une deuxième question, c'est, s'agit-il ma façon de vivre? Si ce n'est pas une saison, peut-être c'est une façon de ma vivre, de façon de vivre. Si cette saison, dure depuis des années, réexaminez-vous. Les fondations sur lesquelles vous construisez votre vie, où mettez-vous vos racines? Nourrissez-vous le sol avec la Bible, la repentance, les amis chrétiens, une communauté biblique? Comment vous ajoutez des choses sur le sol pour les fruits à produire dans votre vie? Qu'est-ce que c'est au-dessus? Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de tout la plénitude de Dieu. On met souvent notre foi sur quelque chose d'autre, et pas en Christ. Ben, je peux bien construire ma vie avec ma famille, ou avec des enfants sages, avec une carrière, avec mon entourage, avec la vie des autres personnes, et pas en Christ. Où est-ce que vous avez créé la fondation de votre vie? Aucune chose ne peut pas apporter le fruit éternel durable de votre vie, dans votre vie, que Christ. Souvent, c'est la solution rapide, n'est-ce pas? C'est la solution rapide où vous pouvez sentir quelque chose. Mais ils ne sont pas durables. Ils ne sont pas éternels. Souvent, la rentrée scolaire, pour moi, intervient après un changement de rythme avec l'été. Que vous avez peut-être le temps de réfléchir de tout ce qui s'est passé l'année dernière ou pas. Je trouve que c'est toujours une remise à zéro. Une remise à zéro. Le calendrier commence. C'est comme une grâce commune, n'est-ce pas, pour nous. Pour rappeler que les saisons changent. Les saisons changent, mais notre Dieu est toujours bon. Et la grâce est nouvelle chaque rentrée. Parents, chaque rentrée, sa grâce est nouvelle. Mais aussi pour tout le monde, sa grâce est nouvelle chaque matin. Ça, c'est notre Dieu. Peut-être vous avez des montagnes juste devant vous, comme Jésus a parlé avec les disciples. Je ne sais pas c'est quelle montagne, mais on a un Dieu qui veut vous aider. Il est là. Et cette année, ce soir, le Christ vous invite à entrer dans un rythme de grâce, plein de foi, plein d'assurance, de confiance et d'espérance en lui. Parce que même avec toutes ces montagnes, il peut remettre ta vie à zéro ce soir, demain matin, ou même semaine prochaine. Je pense quand j'étais jeune, j'ai vu des montagnes de ma vie et j'ai parlé, j'ai prié à Dieu et il a vraiment changé les choses. Et je pense de plus en plus, je continue cette marche avec Jésus. Je vois encore des montagnes parce qu'ils étaient trop loin quand j'étais jeune. Mais maintenant, je vois des autres montagnes. Ça, c'est la vie avec Christ. Il y a toujours une montagne, mais on a toujours un Dieu qui est bon. Qui est bon. Les amis, Christ s'offre à nous individuellement avec l'assurance qu'il peut lui aussi déplacer la montagne de notre vie qui nous pèse. En Christ peut nous aider à trouver la paix en lui. Donc, le repas pour ce soir, le repas que Christ offre aujourd'hui comme l'agneau de sacrifice en disant, si on dit, reçois-moi. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Rappelez-vous, sans Christ, vous ne pouvez pas produire de fruits. Ce n'est pas possible. Des bons fruits. Vous ne pouvez pas réconcilier avec des personnes difficiles. Vous ne pouvez pas soumettre à votre chef qui est difficile. Vous ne pouvez pas créer une vie en rose sans vous enraciner en Christ. Ce soir, prenez le fruit. Prenez le fruit de l'ultime sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ. Son corps qui était donné pour vous et son sang qui était versé pour vous. Ce soir, si vous croyez que Christ est votre Seigneur sauveur, le repas du Seigneur, c'est pour vous. Si vous n'avez pas fait encore cette confession, vous pouvez juste rester dans votre siège et vous pouvez prier avec nous. Pouvez-vous prier avec moi? Seigneur, merci encore pour ce texte qui m'a parlé cette semaine. Merci pour votre grâce. On voit le jugement, on voit la colère contre les injustices, mais aussi on voit la bonté. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta parole qui nous explique comment nous pouvons avoir une vie, une belle vie, une vie en rose, une vie qui produit des fruits par l'assurance, par la foi en toi, par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous cette semaine. Aide-nous cette semaine avec tout le bagage qu'on a vécu peut-être l'année dernière. Et tu peux remettre toutes ces choses ce soir à zéro. Par ta grâce. Merci. Parce que ta grâce est toujours plus forte que nos péchés. Et plus forte que tous les autres mal contre nous. Ta grâce est toujours plus forte et éternelle pour nous. Amen. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez prendre la scène. Il y a des pains sans gluten et on a des vins et des jus de raisin, comme vous préférez.